Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labourroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, le dictionnaire amoureux de l'Espagne, de Michel de Castillo. Un dictionnaire de l'Espagne, entre ombre et lumière, présenté sous ses mille et une facettes par l'un de ses amoureux transis. L'Espagne d'hier et d'aujourd'hui, autant de tableaux flamboyants qui permettent de faire retentir le chant profond de Carmen et de ressentir le panache de Don Quichotte. C'est aussi toute l'histoire de l'Espagne qui défile. La civilisation arabo-andalouse avec le califat de Cordoue, les débuts de la reconquête dans les montagnes des Asturies jusqu'à la prise de Grenade, la découverte et l'exploitation du Nouveau Monde, les ambitions des Bourbons, la guerre civile, l'Espagne moderne, démocratique et européenne. Un avant-propos, Michel del Castillo a écrit « Pas plus que les hommes, les pays ne peuvent vivre sans mémoire. Tenir le fil qui, du plus loin passé, court jusqu'à maintenant, le dérouler sans s'abandonner aux nostalgies ni aux condamnations hystériques, regarder ce film rempli de violence et de générosité superbe, c'est apprendre à s'orienter en observant le flux et le reflux de cette marée qui a bercé nos mémoires. Michel del Castillo est né à Madrid le 2 août 1933. Son père quitte son épouse, Candida Isabel del Castillo, en 1935. Il rejoint la France et ne s'occupe plus de son jeune fils. Sa mère, très engagée politiquement, est proche du Parti républicain de Manuel Azañas. Pourtant, elle sera emprisonnée par ces mêmes républicains de 1936 à 1937 pour s'être inquiétée du sort des prisonniers politiques. Durant son emprisonnement, le jeune Michel lui rend visite accompagné de sa grand-mère. Sa mère sera condamnée à mort par les franquistes. Ensemble, la mère et le fils fuient l'avancée franquiste et se réfugient en France. Durant la Seconde Guerre mondiale, ils seront internés au camp de Rieucros, à Mende, en Lozère. Ce camp de réfugiés politiques est une des épreuves que l'écrivain décrira notamment dans son roman « Tanguy ». Cependant, il gardera une certaine attache pour la ville de Mende, où une école porte désormais son nom. Après s'être évadé, Michel de Castillo est envoyé en Allemagne, dans les fermes de travail jusqu'à la fin de la guerre. Rapatrié en France, puis livré à l'Espagne, Michel de Castillo est enfermé dans une maison de redressement, véritable bagne de fils de rouge. Il s'en évade en 1949. Il a ensuite la chance d'être accueilli par un collège de jésuites à Úbeda, en Andalousie. C'est avec le père Mariano Prados, Pardo dans le roman Tanguy, qu'il découvre la littérature. Alors que son père ne répond pas à ses lettres désespérées, il part à Sitges pour devenir ouvrier en 1950. Il est alors âgé de 17 ans. Influencé par les romanciers Miguel de Unamuno et Fiodor Dostoïevski, il publie en 1957 son premier roman, Tanguy, qui remporte un succès mondial. Ses romans ultérieurs recevront de nombreux prix, dont le Renaudot en 1981 pour La nuit du décret. Sa production littéraire est immense. Le dictionnaire amoureux de l'Espagne obtient en 2005 le prix Méditerranée. Actuellement, Michel de Castillo vit dans le Gard. Alhambra. Les jardins, encore, mais ici le palais, seul témoignage au monde de l'architecture militaire arabe qui nous soit parvenu intacte, avec sa salle des ambassadeurs, des deux sœurs, des myrtes, ses cours, notamment celle des lions, ses colonnettes graciles, ses pavillons, sa fontaine, ses lions, une miniature persane. Un dictionnaire, même amoureux, n'est pas un guide. Je me dispense de toute description. J'ai connu ces lieux alors qu'on pouvait, au son d'une guitare, flâner seul dans les salons, s'asseoir longuement, rêver à son aise. Aujourd'hui, les groupes défilent au pas de course. L'esprit le plus obtus pressent ces lieux, pourquoi Grenade était condamnée. Une perfection inhumaine, bouleversante dans sa simplicité. Architecture, écologique, a-t-on dit, de ces palais qui épousent le terrain, ses déclivités, lui empruntent sa couleur. Combien de fois le jeune Federico Garcia Lorca, alors étudiant, est-il venu s'asseoir ici ? Manuel de Falla habitait à deux pas dans l'une de ces maisonnettes qu'on appelle à Grenade un carmen, une treille cachée derrière un mur blanc. Ensemble, ils faisaient de la musique, étudiaient les rythmes et les modes du cante rondo, devisaient, assis dans le patio du compositeur. Federico riait, il riait toujours, s'asseyait au piano, jouait de vieilles chansons populaires, racontait des histoires drôles. Un peu plus loin, se trouvait le carmen de mon grand-père maternel, dominant la ville et la chaîne de la Sierra Nevada. Je ne regrette rien. Que devais-je regretter ? De n'avoir pas connu ces heures de détente dans un patio rempli de fleurs ? Je vis dans mes songes ce que la vie m'a retiré. Tolède, capitale des Visigoths, joyau de l'Espagne musulmane, Tolède reste la métropole spirituelle. Cordoue, Grenade, Séville, Almeria, c'est l'esprit de l'islam andalou. Burgos, Salamanque, Avila, c'est le cœur de la Castille. Tolède, c'est l'âme de toutes les Espagnes, leur fusion. Perché sur son éperon de granit, dominant le Tage qui sinue au pied de la falaise, chacune de ces places, chacune de ces rues est une compilation de toutes les races, de toutes les religions. Dans ces murs, sous les Visigoths, se réunissaient depuis l'an 400 les conciles des évêques, notamment celui qui, en 589, vit la conversion de Recared, marquant l'hégémonie visigothique et l'unification religieuse du pays. L'Espagne s'est faite à Tolède, et cette date, 589, devint symbolique pour la reconquête, les seigneurs chrétiens se réclamant de la légitimité visigothique dans leur lutte contre l'islam. Berceau du catholicisme espagnol, Tolède enfermait aussi la population juive la plus nombreuse. Au XIIe siècle, ils étaient plus de 12 000 sur 60 000 habitants. Puissants, leur influence atteignit son apogée sous la domination musulmane, mais elle se poursuivit après la reconquête de la ville par les chrétiens, sous Ferdinand III, sous Alphonse X surtout, qui s'entoura de savants juifs, favorisant ce qu'on continue d'appeler l'école des traducteurs. Diminuée, appauvrie, après que Philippe II l'eut délaissé pour fixer sa cour à Madrid, la ville n'en était pas moins l'une des plus importantes du royaume. En 1560, elle comptait entre 80 000 et 100 000 habitants, entassés dans ses ruelles étroites et pentues, surpopulation qui en faisait l'un des endroits les plus chers de Castille. Les loyers, la nourriture, tout était hors de prix, à en croire Lope de Vega. C'est à Tolède que le maranisme se manifesta avec le plus de force. Cette constance explique le goût du secret, de l'occultisme, de la magie. Tolède est une ville ésotérique et kabbalistique. En flânant dans ses venelles escarpées, on respire partout l'odeur du sang. Noche Toledana, nuit du massacre, une atmosphère d'intrigue et de conspiration. Il flotte dans l'air un parfum d'érudition savante et alambiquée. C'est une ville folle de présomption, chicaneuse. Acariâtre. Avec les Juifs, les Maurices qui vécurent près de 4 siècles après la reconquête de la ville. Maçons, charpentiers, ébénistes, forgerons, relieurs, doreurs, tisserands, teinturiers, ils formaient une population d'artisans habiles et besogneux. On les voyait dans les marchés, vêtus de leurs costumes traditionnels, coiffés de la chéchia andalouse, marchandant avec roublardise et patience. Partout dans Tolède, on aperçoit les traces de la double présence juive et musulmane. Une porte moudérare, une fenêtre, une église, autant de stigmates que la toute-puissance chrétienne et castillane ne parvient pas à cacher. L'emploi de la brique, les clochers carrés qui évoquent des minarets, les stucs, les plafonds artesanados, travaillés et sculptés, l'art moudérare, fait par les morisques dans la tradition musulmane, marque de son empreinte le paysage urbain. Les deux synagogues, les plus belles de toute l'Espagne, résument la généalogie de la ville. Ce sont deux chefs-d'œuvre de l'architecture arabe, démonstration que la culture juive vivait lovée dans la civilisation andalouse. Après la prise de la ville par les chrétiens, elles furent converties en église, Sainte-Marie-la-Blanche pour l'une, du Transito pour l'autre. Les inscriptions en caractère hébraïque courant le long des murs disent la fierté des Juifs espagnols. Des foules de mozarabés, chrétiens ayant vécu sous la domination musulmane, et de ce fait arabisés, étaient venus se réfugier dans la vieille cité lors des invasions almoravides et almohades. Leur liturgie orientale, leurs chants âpres et monodiques se sont conservés à Tolède jusqu'à une époque récente. Dans ma jeunesse, j'aimais dans une chapelle de la cathédrale assister à la messe célébrée selon le rite mozarabé. À l'intérieur même de la cathédrale, l'œil averti distingue les signes ironiques de la persistance du passé oriental de l'Espagne. Une ville souterraine vit sous la ville impériale. C'était la chronique littéraire de Gilles Labouroir. À bientôt.